fait. Chronique historique, hétéroclite et tout azimique. Depuis plus de deux décennies, Vladimir Vladimirovitch Poutine occupe une place centrale sur la scène politique russe et internationale. De ses origines modestes à Saint-Pétersbourg jusqu'à son rôle de président et de figure dominante du Kremlin, son parcours est marqué par la discipline, l'ambition et la consolidation d'un pouvoir quasi absolu. Entre réformes, centralisation du pouvoir, conflits internationaux et répression politique, la Russie sous Poutine a connu des transformations profondes, tant sur le plan économique que social et institutionnel. Voici son histoire.
Мой лучший друг – это президент Путин. 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 Мой белый владыка, кто левый, тот на выход. Эти девочки просились, возьми любую из них на выбор. Считаем бюджет, сидя на столе. Пирамида души, всплеск, красиво, Россия, встречай сына. Города говорят об одном, мы поставили новый рекорд. Над головой мой триколор, холоднокровных ни одного. Быть первыми — это наш рок, это мой круг, это мой дом. Все для него и свобода рекой нам под силу. Знаешь про любовь к тебе одной. Мы с вами за него всей страной. Вы знали, он крутой супергерой. Сегодня я игрок, мой друг со мной.
Идем плавно, он главный, значит будет все по плану. Ты знаешь, кто твой флагман.
Ты знаешь, кто твой флагман.
Мистер президент, с нами наравне. Те, кто в зале, здесь все.
Мой лучший друг, это президент Путин. Мой лучший друг, это президент Путин.
Продукт снова в цене. Лада седан, салют АвтоВАЗ. Мой лучший друг снова в игре. Мой лучший друг один из нас. Если страна это клуб, то на танцполе сегодня много людей. Нет фейс-контроля, здесь все равны. Все остальное решает диджей. Мой лучший друг встает за пульт. Рейтинг растет, качает страна. Девочки просто от него без ума. Мой лучший друг пока не женат. Работаем без перерыва от понедельника и до субботы. Скажи, кто твой лучший друг, и я сразу скажу,
ты
кто
знаешь, ты. Про любовь тебе одной. Мы с вами за него всей страной. Вы знали, он крутой супергерой. Сегодня я игрок, мой друг со мной.
Мой лучший друг – это президент Путин. 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 Мой лучший друг – это президент Путин.
Идем плавно, он главный, значит будет все по плану. Ты знаешь, кто твой флагман.
Ты знаешь, кто твой флагман.
Мистер президент, с нами наравне. Те, кто в зале, здесь все.
Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, dans une famille modeste. Son père, Vladimir Spiridonovitch Poutine, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, travaillait dans une usine de métallurgie et sa mère, Maria Ivanovna Selomova, était ouvrière. Il grandit dans un quartier populaire marqué par les difficultés économiques de l'après-guerre. Dès son enfance, Poutine se distingue par sa discipline, sa détermination et son intelligence pratique. Il suit les écoles publiques locales où l'enseignement est rigoureux et centré sur les mathématiques, les sciences et l'histoire soviétique. Parallèlement, il développe une passion pour le sport, pratiquant la natation, le hockey sur glace et le judo, mais excelle particulièrement dans le sambo, un art martial soviétique alliant lutte, judo et jujitsu, orienté sur les prises, projections et clés articulaires. Il devient champion régional. En 1970, il entre à l'université d'État de Leningrad, faculté de droit, et obtient son diplôme en 1975, préparant sa carrière au KGB, le service de renseignement soviétique. Après son diplôme, il rejoint donc le KGB, où il suit une formation à Moscou avant d'être affecté à Leningrad pour des missions de renseignement et de sécurité. En 1985, il est envoyé à Dresde, en Allemagne de l'Est, sous couverture du KGB. Sa mission consiste principalement à collecter des informations politiques et à assurer le contre-espionnage, en collaboration avec la Stasi est-allemande, police politique, qui avait pour principal objectif de traquer les opposants au régime instauré à la suite de l'occupation des Länder de l'Est par l'armée rouge. Il y reste jusqu'en novembre 1989, peu avant la chute du mur de Berlin, puis retourne à Leningrad dans un rôle administratif, acquérant une solide expérience en gestion et en renseignement. À partir de 1990, Poutine commence à se tourner vers la politique civile. En 1991, il rejoint l'administration municipale de Saint-Pétersbourg, sous le maire Anatoly Sobchak, responsable des relations extérieures et des investissements internationaux. Entre 1992 et 1996, il gravit les échelons de l'administration municipale, consolidant un réseau politique solide et développant une réputation de fonctionnaire efficace et loyal. En 1996, il quitte Saint-Pétersbourg pour Moscou, où il intègre l'administration présidentielle sous Boris Eltsin, travaillant sur la politique intérieure et le contrôle des services de sécurité. En 1998, il est nommé directeur du FSB, successeur du KGB et membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En août 1999, il devient Premier ministre de Russie, puis, après la démission surprise d'Eltsin, il devient président par intérim. Boris Eltsin a démissionné le 31 décembre 1999 en raison de son état de santé dégradé, de son impopularité liée aux graves difficultés économiques et sociales de la Russie. Il voulait un nouveau départ pour le pays, estimant ne plus avoir la légitimité ni l'énergie nécessaire pour gouverner efficacement. Il a choisi de quitter le pouvoir avant la fin de son mandat et d'organiser une transition contrôlée en nommant Vladimir Poutine président par intérim afin d'assurer la stabilité de l'État. Avant son ascension, Poutine est témoin des bouleversements de l'URSS. En 1991, un groupe de conservateurs tente de renverser Gorbatchev. Les protagonistes sont Gennady Ianaïev, vice-président proclamé président par intérim, arrêté, libéré pour raison de santé, décédé en 2010. Valentin Pavlov, premier ministre, arrêté et retiré de la vie publique, mort en 2003. Boris Pugot, ministre de l'Intérieur, se suicide lors de l'échec du putsch. Dimitri Yazov, ministre de la Défense, arrêté, puis libéré en 1994, décédé en 2020. Oleg Paglanov, ministre de l'Industrie et de la Défense, arrêté, puis libéré, mort en 2021. Vladimir Kriouchkov, chef du KGB, condamné à 6 ans, libéré après 18 mois, décédé en 2007. Et enfin, Nikolai Tikhonov, ancien Premier ministre, arrêté, puis libéré, décédé en 1997. Le putsch échoue grâce à la mobilisation populaire et à l'action de Boris Eltsin. À ce moment, les réformes de la Perestroïka, la restructuration économique et politique, et la Glasnost, ouverture, affaiblissent le Parti communiste et facilitent la transition vers la Russie contemporaine. En 2000, Poutine est élu président avec 53% des voix au premier tour, reflétant son image de leader fort et garant de stabilité après les turbulences des années 90 et la guerre en Tchétchénie. Certains observateurs ont cependant signalé des éléments pouvant influencer le résultat, notamment un contrôle médiatique massif favorisant Poutine, des obstacles administratifs et logistiques pour l'opposition, ainsi que des irrégularités locales dans le comptage des votes. L'élection est considérée globalement comme formellement libre, mais ces facteurs ont alimenté des suppositions d'avantage électoral en faveur de Poutine. Lors de sa réélection en 2004, Poutine obtient environ 71% des voix au premier tour. L'élection de 2004 est marquée par des irrégularités plus prononcées, avec un contrôle renforcé des médias, des pressions administratives et juridiques sur l'opposition, et des signalements de bourrage d'urnes et falsification des résultats dans certaines régions. Ces éléments, combinés à la popularité de Poutine comme leader capable de restaurer l'ordre et de centraliser le pouvoir, ont permis sa victoire massive, mais l'élection est largement critiquée pour son manque d'équité, même si elle a été validée par les instances électorales russes. Ne pouvant pas briguer un troisième mandat consécutif en raison de la Constitution, Poutine soutient Dmitri Medvedev comme candidat à la présidence en 2008. Medvedev est élu avec près de 70% des voix, bénéficiant d'une campagne favorisée par le tandem président-premier ministre. Poutine devient Premier ministre, en effet, et conserve une influence majeure sur la politique intérieure, la sécurité et l'économie. Medvedev est souvent perçu comme largement sous l'influence de Poutine. Il dispose d'une certaine autonomie, mais sur des dossiers moins stratégiques, comme la modernisation technologique ou quelques réformes administratives. Mais le pouvoir réel reste concentré entre les mains de Poutine. Pour comprendre, sous la présidence de Medvedev, plusieurs changements ont été orchestrés pour préparer le retour de Poutine. Medvedev a servi de président tampon tandis que Poutine, en tant que Premier ministre, conservait le contrôle réel des décisions politiques et économiques. Des réformes ont été mises en place pour prolonger le mandat présidentiel de 4 à 6 ans, centraliser le pouvoir et sécuriser les institutions clés tout en consolidant le soutien des élites et des oligarques proches de Poutine. L'image modernisatrice de Medvedev a aussi permis de légitimer le pouvoir en place et de préparer l'opinion publique à un retour de Poutine. Cette stratégie a assuré une continuité politique, un État centralisé et un réseau d'élites loyales, permettant à Poutine de revenir à la présidence en 2012 et de rester au pouvoir sans opposition significative. En 2025, Poutine est toujours au pouvoir grâce à des mécanismes de centralisation, à la modification des règles constitutionnelles, notamment le reset des mandats présidentiels en 2020, et au contrôle des institutions politiques et médiatiques. Selon la constitution russe actuelle, il pourrait théoriquement rester président jusqu'en 2036 s'il se représente et est réélu lors des prochains scrutins. Depuis son retour à la présidence en 2012, Vladimir Poutine a mis en place une stratégie interne systématique visant à consolider son pouvoir et neutraliser toute opposition, qu'elle soit politique, médiatique ou économique. Cette stratégie a commencé dès 2008 avec la présidence tampon de Dmitri Medvedev qui a permis à Poutine de rester au centre du pouvoir en tant que Premier ministre tout en respectant formellement les limites constitutionnelles des mandats. Sous Medvedev, plusieurs changements ont été opérés pour préparer le retour de Poutine. Allongement du mandat présidentiel de 4 à 6 ans, centralisation accrue du pouvoir, sécurisation des institutions clés et consolidation du soutien des élites et des oligarques proches du Kremlin. Cette période a également servi à donner une image modernisatrice et réformiste au pouvoir en place, légitimant le retour de Poutine en 2012. Depuis son retour à la présidence, il a mené une politique visant à concentrer le pouvoir, contrôler l'opinion et neutraliser toute opposition interne. Il a renforcé le contrôle sur les régions et les institutions, encadré les partis politiques, les médias et les ONG, et adopté des lois restrictives sur les manifestations et les critiques politiques. Les réformes constitutionnelles, en particulier le reset des mandats présidentiels en 2020, ont permis à Poutine de se représenter et de prolonger théoriquement son pouvoir jusqu'en 2036. Un aspect central de cette stratégie concerne les oligarques opposants, dont le traitement a servi à montrer que le pouvoir économique doit rester subordonné au pouvoir politique central. L'exemple le plus emblématique est celui de Mikhail Khodorkovsky, propriétaire de Yukos, l'une des plus grandes compagnies pétrolières russes. Dans les années 90 et 2000, il accumule richesse et influence politique, finançant des partis et initiatives pouvant concurrencer le Kremlin. En octobre 2003, il est arrêté sous des accusations de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Ces accusations, bien qu'officiellement économiques et judiciaires, étaient largement considérées comme politiques, destinées à neutraliser un rival dangereux. L'État confisque ensuite les actifs de Yukos et les redistribue à des entreprises étatiques ou à des alliés fidèles au Kremlin, consolidant le contrôle de l'État sur un secteur stratégique. Khodorkovsky passe environ 10 ans en prison jusqu'en décembre 2013, perdant sa fortune et devenant un symbole de la répression des oligarques indépendants. Après sa libération, il s'exile principalement en Europe, notamment en Allemagne, et se consacre à des activités politiques et civiques fondant des organisations comme Open Russia pour soutenir la démocratie, la société civile et la transparence politique en Russie. Son parcours illustre parfaitement la manière dont Poutine utilise les leviers judiciaires, économiques et médiatiques pour neutraliser ses rivaux et imposer la subordination des élites au pouvoir central. En 2012, les résultats officiels donnent Poutine vainqueur avec environ 63% des voix. Cependant, cette élection est marquée par des protestations et des accusations d'irrégularités locales. Des cas de bourrage d'urnes, anomalies de comptage, obstacles à l'opposition et contrôle médiatique ont été documentés. Les manifestations, connues sous le nom de « Marche de Bolotnaya », ont rassemblé des millions de citoyens réclamant des élections libres et transparentes et ont été réprimées par la police. En 2018, nouvelles élections, nouvelles réélections. Poutine obtient officiellement environ 76% des voix. Comme pour 2012, de nombreuses accusations de fraude apparaissent. Bourrage d'urnes, vote organisé par bus, pression sur l'opposition et manque de couverture médiatique pour les concurrents. Des estimations indépendantes suggèrent que 8 à 10 millions de votes pourraient avoir été irréguliers. Nouvelle élection en 2024, Poutine est officiellement réélu avec environ 87% des voix. Cette élection est critiquée de manière encore plus prononcée. Analystes statistiques, rapports d'observateurs et médias indépendants indiquent une fraude massive dans plusieurs dizaines de régions, bourrage d'urnes, modification des résultats et absence quasi totale d'opposition réelle. De nombreux observateurs internationaux considèrent le scrutin comme non libre et non équitable. Lors de ses retours à la présidence, Poutine renforce la centralisation du pouvoir, le contrôle des médias et des institutions et limite l'opposition politique. La presse indépendante en Russie a presque disparu depuis son arrivée au pouvoir. Poutine a progressivement centralisé le contrôle des médias. Les grands groupes nationaux sont soit directement contrôlés par l'État, soit par des oligarques proches du Kremlin. Quelques médias indépendants subsistent encore, mais ils font face à des pressions constantes. Poursuites judiciaires, fermetures, confiscation de licences, harcèlement ou exil forcé pour échapper à la censure, comme ce fut le cas pour Medusa et Novaya Gazeta. Les journalistes qui restent sur le territoire russe pratiquent souvent l'autocensure pour éviter la répression, ce qui limite fortement la pluralité d'informations. L'accès à la presse indépendante existe encore pour une minorité de la population. Les médias sont exilés ou la diffusion est satellitaire, mais l'audience reste très faible. Environ 6 à 9% de la population adulte russe seulement. Les rassemblements publics et manifestations sont strictement encadrés ou interdits et toute protestation majeure contre le Kremlin est réprimée. Des lois ont été adoptées pour criminaliser les critiques du gouvernement, qualifier d'extrémistes pour certains médias ou ONG et restreindre l'accès à Internet pour des contenus jugés subversifs. Selon des organisations comme Reporters sans frontières ou Human Rights Watch, la Russie se classe parmi les pays où la liberté de la presse et les droits civiques est la plus restreinte au monde. En résumé, il n'y a plus de presse libre au sens classique en Russie, et la répression est systématique, touchant aussi bien l'opposition politique que les médias et la société civile, ce qui constitue un contrôle autoritaire quasi total de l'information et du pouvoir. Entre 2012 et 2024, Poutine a concentré son action sur plusieurs axes majeurs. Il a renforcé la centralisation du pouvoir et le contrôle des siloviki, maintenu une économie dépendante des hydrocarbures, promu des valeurs conservatrices et nationalistes, et assuré la stabilité des pensions et allocations pour certaines catégories. Sur le plan international, il a consolidé le prestige de la Russie via l'annexion de la Crimée et l'intervention en Syrie. Ces actions ont permis à une partie de la population, notamment dans les régions rurales et les générations plus âgées, de percevoir un sentiment de sécurité, de stabilité et de fierté nationale. En revanche, une partie de ses citoyens, surtout les jeunes et les urbains, ressent une stagnation économique, un manque de perspective, des restrictions sur les libertés politiques et une forte censure. Le soutien officiel reste élevé, mais le mécontentement latent existe et s'exprime lors de manifestations limitées ou en ligne. Entre 2012 et 2024, Poutine dirige avec une mainmise forte sur l'État et les siloviki, les anciens agents du KGB ou du FSB et de l'armée, et une répression systématique de l'opposition et de la société civile. Parmi les figures emblématiques de cette répression, Alexei Navalny, avocat et militant anticorruption, qui a fondé les fonds de lutte contre la corruption et dénoncé les fraudes massives et la corruption des élites russes. Il organisait également des manifestations et enquêtait sur la fortune des oligarques proches du Kremlin. Empoisonné en 2020, emprisonné en 2021 à son retour en Russie, il meurt en détention en 2024. Vladimir Karamurza, journaliste et militant des droits humains, a enquêté sur l'assassinat de Boris Nemtsov et dénoncé la corruption et la répression. Survivant de deux tentatives d'empoisonnement, il est condamné à 25 ans de prison pour haute trahison et extrémisme. Il sera libéré le 1er août 2024 dans le cadre d'un échange de prisonniers organisé entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, ce qui a permis la libération d'une vingtaine de personnes détenues en Russie. Actuellement, il voyage et s'exprime à l'étranger, tout en continuant à plaider pour les prisonniers politiques encore détenus en Russie. Pour rappel, Boris Nemtsov était un homme politique russe très en vue. Vice-premier ministre dans les années 90 sous Eltsine, leader de l'opposition au Kremlin, critique ouvert de Vladimir Poutine, militant pour la démocratie, les droits humains et contre la corruption et la guerre en Ukraine, notamment après 2014, il fut assassiné près du Kremlin à Moscou le 27 février 2015 sur le pont Bolchoï-Moskovoretsky qui surplombe la rivière Moskova. Il se trouvait sur ce pont avec sa compagne ukrainienne, Anna Duritskaya, lorsqu'il a été abattu de plusieurs balles dans le dos. Par la suite, 5 hommes tchétchènes avaient été arrêtés et condamnés à de longues peines de prison. Cependant, les commanditaires directs n'ont jamais été officiellement identifiés, ce qui laisse penser que le crime avait un motif politique. L'assassinat a été largement interprété comme une mise en garde contre l'opposition à Poutine, car Nemtsov était très actif politiquement et publiquement critique envers le Kremlin. Parmi les opposants emprisonnés, n'oublions pas Ilya Hatchin, militant politique et ancien élu local, proche de Navalny et de Nemtsov, qui a organisé des campagnes pour la transparence électorale et dénoncé la guerre en Ukraine. Il est emprisonné pour ses critiques ouvertes du Kremlin. Il a également été libéré le 1er août 2024 et vit désormais en exil en Allemagne depuis sa libération. Cette répression combinant intimidation, emprisonnement, assassinat ciblé et contrôle strict de l'opinion publique permet à Poutine de maintenir un pouvoir quasi absolu tout en neutralisant toute opposition active et visible. La guerre en Ukraine, lancée en février 2022, a des impacts profonds sur la vie quotidienne et le ressenti de la population.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
Pour rappel, selon Vladimir Poutine, la Russie a envahi l'Ukraine pour plusieurs raisons qu'il présente comme des mesures de sécurité et de protection. Il affirme que l'expansion de l'OTAN vers l'Est constituait une menace directe pour la Russie, l'Ukraine se rapprochant de plus en plus de l'alliance militaire occidentale. La Russie insiste également sur la protection des populations russophones, en particulier dans l'Est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, où les habitants de Donetsk et Luhansk sont supposément victimes de persécutions de la part du gouvernement ukrainien. Le conflit dans le Donbass a commencé en 2014, après que le président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych, a été renversé et a fui en Russie suite aux manifestations de l'Euromaidan, déclenchées par son refus de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Dans cette région, des groupes séparatistes pro-russes ont proclamé les républiques populaires de Donetsk et Luhansk et ont reçu un soutien militaire et financier de la Russie, officiellement pour protéger les russophones et contre l'influence de l'OTAN. Poutine a également invoqué la désanification de l'Ukraine, accusant le gouvernement ukrainien de nationalisme extrême et a évoqué des motifs historiques, affirmant que l'Ukraine faisait partie de la sphère russe et que sa séparation après l'effondrement de l'URSS était une erreur. Enfin, des objectifs géopolitiques sont mis en avant, sécuriser l'accès stratégique à la mer Noire et contrôler des infrastructures clés dans l'est du pays. Évidemment, la communauté internationale considère ces justifications comme un prétexte pour une violation de la souveraineté ukrainienne et un soutien direct à des forces séparatistes dans le Donbass. Les sanctions internationales entraînent une inflation élevée, une hausse des prix alimentaires et énergétiques et des pertes d'emplois liées au départ d'entreprises étrangères. L'accès aux biens importés et aux technologies est limité et certaines régions connaissent une baisse du pouvoir d'achat. La mobilisation partielle a touché des millions d'hommes, générant peur et anxiété. La propagande officielle limite l'accès à une information indépendante, créant confusion et désinformation. Plusieurs centaines de milliers de Russes ont quitté le pays pour échapper à la mobilisation ou aux répercussions économiques. Officiellement, le soutien reste élevé, souvent 60%, 70% grâce à la propagande, au nationalisme et à la répression de l'opposition. Cependant, le mécontentement croît chez les jeunes, les habitants des grandes villes et les classes moyennes en raison de la guerre, de la mobilisation et de la détérioration du niveau de vie. Le soutien affiché ne reflète donc pas entièrement l'opinion réelle. Les pénuries alimentaires touchent certains produits de base, notamment les pommes de terre, produits laitiers, beurre et conserves. Le président Poutine a lui-même reconnu un manque de pommes de terre en 2025. Les prix des denrées ont fortement augmenté et certains ménages, retraités ou familles modestes, peinent à se nourrir correctement. Des témoignages rapportent que de nombreux Russes doivent réduire la quantité ou la variété de leurs achats alimentaires, notamment pour les produits essentiels. La situation est plus grave dans certaines régions que dans d'autres, mais elle révèle un appauvrissement progressif et un accès plus difficile à la nourriture pour une partie significative de la population. Officiellement, le taux de chômage est très faible, autour de 2,2-2,4% en 2025, ce qui constitue un record historique. Cependant, le chômage réel ou le sous-emploi est probablement beaucoup plus élevé. Certains experts estiment entre 8 et 10% à cause de la mobilisation, de l'émigration, des emplois précaires ou informels et des postes protégés dans l'armée ou le secteur public. Les sondages 2024-2025 montrent que plus de la moitié des Russes ressentent une dégradation de leurs conditions de vie, revenus, travail, coût de la vie, même si beaucoup restent officiellement employés. 36% déclarent une détérioration financière et 40% des travailleurs font des heures supplémentaires pour joindre les deux bouts. Le mécontentement latent existe malgré le faible chômage officiel et reflète le sous-emploi, les difficultés économiques et l'impact de la guerre sur la vie quotidienne.
19 августа 1991 в Москве попытка захвата власти через объявление военного положения. Телевидение, не понимая, что ему показывать, повторяет и повторяет балет «Лебединое озеро». Пучисты надеялись остановить распад СССР, но только ускорили его. И знаменитый балет Чайковского оказался аккомпанементом советской агонии.
Соловьёв, пусть танцуют лебеди. Вечен крымская алча, ты явно чем-то слегонца удручен. Я бы хотел поговорить с тобой, но телевизор слишком громко орет. Он притворяется твоей головой, его динамик так похож на твой рот. Где вы были 8 лет? Соловьёв.
Дачный кооператив «Озеро» под Петербургом был учрежден в 1990-х Владимиром Путиным и его друзьями, которые в 2000-х станут ближним кругом бессменного президента России.
À la date de décembre 2025, près de 4 ans après le déclenchement de l'invasion russe, le 24 février 2022, la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit sans règlement politique durable. Le conflit est désormais caractérisé par une guerre d'attrition prolongée, marquée par des combats continus, des frappes à longue portée et une ligne de front globalement figée, malgré des offensives locales de part et d'autre. La Russie parvient parfois à engranger des gains territoriaux limités, souvent au prix de pertes humaines et matérielles très élevées, tandis que l'Ukraine mène des contre-attaques ciblées et des frappes en profondeur sur les infrastructures militaires, énergétiques et logistiques russes. Sur le plan des pertes militaires, les chiffres disponibles reposent sur des estimations issues de sources ouvertes, d'institutions occidentales, de déclarations ukrainiennes et d'analyses indépendantes, aucune des parties ne publiant de bilan exhaustif et vérifiable. Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence pour plusieurs raisons. Absence de données officielles fiables, difficulté d'accès aux zones de combat, méthode de comptage variable, certains incluent tués, blessés graves, disparus ou prisonniers, biais de propagande ou politique, et évolution rapide du conflit qui rend toute estimation partielle et temporaire. En raison de ces limites, les chiffres disponibles ne peuvent être considérés que comme des ordres de grandeur. Selon l'état-major ukrainien et plusieurs compilations, la Russie aurait subi depuis février 2022 environ 1,18 million de pertes militaires totales, incluant tués, blessés, disparus et capturés. Ce chiffre ne correspond pas uniquement aux morts, mais reflète l'ampleur globale des pertes humaines ayant affecté la capacité de combat russe. Les estimations occidentales plus prudentes convergent néanmoins vers l'idée que plusieurs centaines de milliers de soldats russes ont été tués et qu'un nombre au moins équivalent a été blessé, souvent gravement. Côté ukrainien, les autorités communiquent beaucoup plus parcimonieusement. Les estimations de think tanks occidentaux évoquent environ 400 000 pertes militaires ukrainiennes cumulées, tués et blessés confondus. Là encore, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence, mais ils confirment que l'Ukraine, malgré une population bien moindre que celle de la Russie, subit un coût humain extrêmement lourd. Sur le plan matériel, les pertes sont également très importantes. Les estimations attribuées aux forces russes font état de la destruction ou de la mise hors service de plus de 11 000 chars, plus de 23 000 véhicules blindés, environ 35 000 pièces d'artillerie, plus de 1 500 systèmes de lance-roquettes multiples, ainsi que plus de 1 200 systèmes de défense aérienne. S'y ajoutent des pertes significatives, avec environ 430 avions, plus de 340 hélicoptères et un nombre extrêmement élevé de drones détruits, dépassant les 80 000 à 90 000 unités, reflet de l'évolution technologique du conflit. Les pertes logistiques sont également massives, avec près de 70 000 camions et véhicules de soutien détruits ou capturés. L'Ukraine a elle aussi perdu une quantité importante d'équipements militaires, bien que les chiffres précis soient moins documentés publiquement. Les pertes civiles sont également considérables et doivent être considérées avec prudence car il est très difficile de comptabiliser toutes les victimes dans les zones de conflit. Selon les Nations Unies, au moins 14 700 civils ukrainiens ont été officiellement recensés comme tués et plusieurs dizaines de milliers blessés. Ce chiffre est unanimement considéré comme une sous-estimation en raison de l'impossibilité de documenter précisément les victimes dans les zones occupées ou intensément bombardées, notamment dans l'est et le sud du pays. Les destructions d'infrastructures civiles, logements, hôpitaux, écoles, réseaux énergétiques ont profondément affecté la population. Le conflit a également provoqué une crise humanitaire majeure. Environ 9,5 millions d'Ukrainiens ont été déplacés, dont près de 5,7 millions de déplacés internes et environ 3,8 millions de réfugiés à l'étranger, principalement dans l'Union européenne. Ce déplacement massif de population a des conséquences durables sur la démographie, l'économie et la cohésion sociale du pays. Sur le plan financier et économique, le coût de la guerre est colossal. Pour l'Ukraine, la Banque mondiale, l'ONU et l'Union européenne estiment que les besoins de reconstruction et de relance atteignent déjà environ 524 milliards de dollars sur 10 ans, un chiffre qui augmente régulièrement à mesure que les destructions se poursuivent. Si l'on inclut les pertes de production, la chute du PIB, la destruction du capital industriel et agricole et les dépenses militaires, le coût économique total pour l'Ukraine pourrait dépasser 1 000 milliards de dollars. La Russie, de son côté, consacre une part croissante de son budget à l'effort de guerre. Les dépenses militaires directes cumulées se chiffrent en centaines de milliards de dollars, tandis que l'impact économique global des sanctions occidentales, de la perte d'accès à certaines technologies, de la fuite de capitaux et de la réorientation forcée de l'économie pourrait représenter jusqu'à 1 300 milliards de dollars de pertes économiques cumulées. Malgré cela, l'économie russe continue de fonctionner en économie de guerre au prix d'un affaiblissement structurel à long terme. Le soutien international à l'Ukraine reste déterminant. L'Union européenne, les États-Unis et leurs alliés ont fourni une aide financière, militaire et humanitaire cumulée de plusieurs centaines de milliards de dollars, dont plus de 160 milliards d'euros pour l'Union européenne. Parallèlement, environ 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés dans l'Union européenne sont au cœur de débats juridiques et politiques visant à financer l'aide à l'Ukraine et potentiellement sa reconstruction future. À signaler qu'en février 2025, un drone armé a frappé la New Safe Confinement, la gigantesque structure métallique protégeant le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine. Cette infrastructure, construite après la catastrophe nucléaire de 1986, a pour fonction principale de contenir les matériaux radioactifs du réacteur détruit et d'empêcher toute fuite dans l'environnement. L'attaque a provoqué une explosion et un incendie, endommageant l'enveloppe extérieure du dôme et créant un trou dans sa paroi. L'Ukraine a accusé la Russie d'être responsable de cette attaque, ce que le Kremlin a nié. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, ces dommages ont réduit la capacité du dôme à remplir pleinement sa fonction de confinement, bien qu'aucune fuite radioactive immédiate n'ait été détectée à l'extérieur. Néanmoins, L'affaiblissement de cette barrière augmente le risque potentiel de libération de poussière radioactive dans certaines conditions, comme une détérioration supplémentaire ou des événements météorologiques extrêmes. Des réparations temporaires ont été mises en place, mais une restauration complète et coûteuse sera nécessaire pour assurer la sécurité à long terme. Les coûts pourraient atteindre des dizaines voire des centaines de millions d'euros, et les travaux pourraient durer plusieurs années dans un contexte déjà rendu dangereux par la guerre. Cette attaque souligne l'extrême vulnérabilité des infrastructures nucléaires en zone de conflit, même plusieurs décennies après un incident majeur. Bien qu'aucune catastrophe immédiate n'ait eu lieu, la situation met en évidence la nécessité de renforcer la protection et la surveillance des sites nucléaires afin de prévenir toute aggravation qui pourra avoir des conséquences environnementales et sanitaires graves. Même si aucune fuite n'a été observée, le réacteur numéro 4 reste extrêmement dangereux. Il contient encore des milliers de tonnes de matériaux radioactifs, dont le césium-137 et le strontium-90. La radioactivité restante est équivalente à plusieurs centaines de bombes d'Hiroshima. Le dôme empêche que ces matériaux se dispersent dans l'air, protégeant ainsi des centaines de milliers de kilomètres carrés. Une brèche pourrait permettre aux poussières radioactives d'être transportées par le vent sur l'Ukraine, la Biélorussie et l'Europe de l'Est. L'exposition directe provoquerait des maladies graves, notamment des cancers et des problèmes de thyroïde. Les pluies, les rivières pourraient emporter les particules radioactives dans les sols et nappes phréatiques, rendant certaines zones inhabitables pendant des décennies. Une fuite radioactive, même limitée, obligerait à évacuer des villes, perturberait l'agriculture et coûterait des milliards d'euros en décontamination et soins médicaux. Elle engendrera également un stress psychologique massif pour les populations concernées. Depuis le début de la guerre, de nombreuses initiatives ont été tentées pour mettre fin au conflit, mais aucun accord global de paix n'a encore été conclu. Les propositions se concentrent principalement sur des cessez-le-feu temporaires, des cadres de négociation ou des plans de paix détaillés avec des positions très divergentes entre l'Ukraine, la Russie et les acteurs internationaux. Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a proposé en juin 2025 un cessez-le-feu inconditionnel destiné à permettre l'organisation d'une rencontre directe avec Vladimir Poutine dans les lieux neutres tels que la Turquie, la Suisse ou le Vatican. Cette initiative a été rejetée par la Russie qui a refusé tout cessez-le-feu sans conditions supplémentaires. En parallèle, l'Ukraine a soumis son propre cadre de paix en 20 points, incluant des garanties de sécurité, des référendums locaux pour tout changement territorial et un refus catégorique de concessions territoriales non consenties. Ce plan a été discuté avec les États-Unis et les partenaires européens, mais n'a pas été mis en œuvre tel quel. Par ailleurs, l'Ukraine a montré une certaine ouverture pour la création d'une zone démilitarisée dans le Donbass, supervisée par une force internationale, proposition qui n'a pas été acceptée par la Russie. Les États-Unis ont également présenté plusieurs initiatives. En novembre 2025, l'administration Trump a rendu public un plan de paix détaillé de 28 points, incluant la création d'une zone économique libre en Donbass si l'Ukraine consentait à céder certains territoires, des limitations militaires et la gestion conjointe de la centrale de Zaporizhia. L'Ukraine a rejeté les éléments concernant les concessions territoriales et certaines limitations militaires, tandis que la Russie n'a pas accepté le texte dans sa forme actuelle. Au printemps 2025, Washington avait proposé un cessez-le-feu de 30 jours, soutenu par l'Ukraine, mais refusé ou ralenti par la Russie qui exigeait des conditions supplémentaires. Du côté russe, Moscou a formulé à plusieurs reprises des cessez-le-feu conditionnels et temporaires, souvent limités à quelques jours autour de dates symboliques. Ces initiatives ont été rejetées par l'Ukraine, perçues comme des manœuvres tactiques. La Russie a également proposé des retraits militaires progressifs, conditionnés à des garanties sur la sécurité et à la reconnaissance de certaines réalités territoriales, ce qui a été fortement contesté par Kiev et par les partenaires occidentaux et n'a abouti à aucun accord formel. D'autres acteurs internationaux ont tenté d'intervenir. La Chine a proposé en février 2023 un plan de paix basé sur un cessez-le-feu, la fin des sanctions et le contact politique entre parties, tout en maintenant le statu quo territorial. Ce plan a été largement rejeté ou ignoré par l'Ukraine et l'Europe occidentale. La Turquie joue un rôle de médiateur, accueillant plusieurs rencontres exploratoires entre diplomates ukrainiens et russes. Certaines initiatives ont néanmoins été mises en œuvre. Les échanges de prisonniers entre Russie et l'Ukraine se sont poursuivis en 2025, représentant une mesure humanitaire concrète. Les discussions sur zones démilitarisées, supervisées internationalement, avancent, et un dialogue diplomatique encadré par les États-Unis, l'Union européenne et la Turquie est maintenu. Depuis 2022, plusieurs cessez-le-feu ont été proposés, mais aucun n'a été pleinement respecté. La Russie a proposé à plusieurs reprises des trêves très courtes, souvent 1 à 3 jours. L'Ukraine a accusé la Russie d'enfreindre ses trêves dès le premier jour par bombardement ou tir d'artillerie dans les zones concernées. L'Ukraine a proposé des cessez-le-feu inconditionnels, notamment en juin 2025, mais la Russie a refusé ces propositions et continué ses opérations militaires, empêchant leur mise en œuvre. Des trêves humanitaires ou ponctuelles, pour échange de prisonniers ou évacuation civile, ont été convenues, mais très souvent enfreintes par des tirs d'artillerie ou frappes aériennes. Ces infractions ont été observées des deux côtés, mais la majorité des interruptions sont attribuées aux forces russes, selon des observateurs indépendants. Les propositions occidentales, comme le cessez-le-feu de 30 jours au printemps 2025, ont été acceptées par l'Ukraine, mais refusées ou retardées par la Russie, empêchant la trêve de se concrétiser. Les principaux facteurs de blocage restent le territoire, avec l'Ukraine refusant toute concession sans consultation populaire, la sécurité, avec Kiev exigeant des garanties solides contre une future invasion, et la position russe, qui insiste sur des restrictions à l'OTAN et la reconnaissance de certaines annexions. Les coalitions occidentales soutiennent fermement l'Ukraine, mais divergent sur certaines modalités de compromis.
Сидит обманутый вечно дед, пославший к соседям марков и душегубов. А долгожданный лебедь к нему не идет уже много лет. Лебедей требуют наши сердца, лебедей требуют наши глаза. Мы так сильно устали от этих в экране бледей. Лебедей, мы ждем лебедей. Электрический ток, орудие пыток, страх запирает наши уста. Но пока в наших жилах кровь, а не лед, мы не оставим наших попыток. Шкатулка, шарфик, пята. Лебедь придет, тиран и диктатор умрет. Лебедей требуют наши сердца, лебедей требуют наши глаза. Мы так сильно устали от этих в экране бледей. Лебедей, мы ждем лебедей. Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Гитары в руках, в кармане Red Bull. Так замыкается круг. Нам не будет страшно это все поменять. Лебедей требуют наши сердца, лебедей требуют наши глаза. Мы так сильно устали от этих в экране бледей. Лебедей, мы ждем лебедей. Лебедей требуют наши сердца, лебедей требуют наши глаза. Мы так сильно устали от этих в экране бледей. Лебедей, мы ждем лебедей. Лебедь придет, тиран и диктатор умрет. Лебедей, мы ждем лебедей.
Début février 2026, la guerre en Ukraine est toujours en cours et s'inscrit désormais dans la durée, après plus de 4 années de conflit depuis l'invasion russe de février 2022. Le front n'est pas figé, mais il est stabilisé dans une logique de guerre d'usure. Les forces russes poursuivent des frappes massives contre l'Ukraine, utilisant drones, missiles balistiques et bombardements d'artillerie lourde, visant non seulement des objectifs militaires, mais aussi des infrastructures civiles stratégiques, réseaux électriques, centrales énergétiques, voies ferroviaires, zones urbaines. Des villes comme Kharkiv, Kiev et plusieurs régions de l'Est et du Sud du pays continuent de subir des attaques régulières, ce qui plonge des millions de civils dans des conditions de vie extrêmement difficiles, notamment en période hivernale, avec des coupures d'électricité, de chauffage et d'eau. Sur le terrain humanitaire, la situation reste critique. Déplacement de population, pénurie, hôpitaux sous pression, infrastructures détruites, économie fragilisée et une population civile qui vit dans un état de stress permanent. Parallèlement au combat, la diplomatie est active mais fragile. Des négociations ont lieu par l'intermédiaire de plusieurs acteurs internationaux, notamment les États-Unis et certains pays du Moyen-Orient, avec des rencontres trilatérales impliquant l'Ukraine, la Russie et des médiateurs internationaux. Ces discussions sont qualifiées de constructives sur la forme, mais elles n'ont jusqu'à présent produit aucun accord politique concret. Les points de blocage restent profonds, la question des territoires occupés, la reconnaissance ou non des annexions russes, la sécurité future de l'Ukraine, son statut géopolitique et la question des garanties internationales. Aucun cessez-le-feu durable n'a été obtenu et la guerre continue donc à structurer l'équilibre sécuritaire européen. Mais cette guerre ne se comprend pas seulement par ses combats. Elle s'explique aussi par une stratégie politique, idéologique et géopolitique portée personnellement par Vladimir Poutine. Pour le Kremlin, l'Ukraine n'est pas un simple État voisin, mais un territoire considéré comme historiquement, culturellement et stratégiquement intégré à la sphère russe. La guerre s'inscrit dans une logique de reconstitution d'une zone d'influence post-soviétique visant à empêcher définitivement l'Ukraine de s'ancrer dans les structures occidentales comme l'Union européenne et l'OTAN. La stratégie de Poutine repose sur plusieurs axes concrets. D'abord, l'ancrage territorial. Moscou cherche à figer des gains territoriaux durables dans l'Est et le Sud de l'Ukraine en transformant l'occupation militaire en réalité politique irréversible par des annexions, des administrations russifiées, des passeports russes imposés aux populations locales et l'intégration économique progressive de ces régions à la Fédération de Russie. L'objectif n'est pas seulement militaire, il est administratif, démographique et institutionnel. Faire disparaître progressivement l'Ukraine de ses territoires en tant qu'entité politique. Ensuite, la stratégie russe est une stratégie d'épuisement. Il ne s'agit plus de victoires rapides, mais d'usures longues. Usure militaire par la saturation du champ de bataille, usure économique par la destruction des infrastructures ukrainiennes, usure psychologique par la pression permanente sur les civils, usure politique par la fatigue des soutiens occidentaux. Le calcul du Kremlin est simple, faire durer la guerre suffisamment longtemps pour fracturer les opinions publiques occidentales, provoquer des divisions politiques internes dans les démocraties européennes, affaiblir la cohésion de l'OTAN et créer un contexte favorable à un accord négocié qui entérinerait de fait les gains russes. Cette logique du temps long est centrale dans la pensée stratégique de Poutine. À cela s'ajoute une stratégie informationnelle. La Russie mène une guerre de l'information massive, désinformation, propagande, récits alternatifs, manipulation des réseaux sociaux, discours de victimisation, rhétorique anti-occidentale et instrumentalisation des peurs. L'objectif est de brouiller la perception du conflit, de relativiser la responsabilité russe, de fragmenter les sociétés occidentales et de créer un climat de confusion permanent. Cette guerre cognitive accompagne la guerre militaire. Sur le plan intérieur, la stratégie de Poutine est aussi une stratégie de contrôle. La guerre est utilisée comme outil de consolidation du pouvoir. Militarisation de la société, répression accrue de l'opposition, contrôle des médias, criminalisation de la dissidence, discours nationaliste, mobilisation idéologique autour de la défense de la patrie. Le conflit devient un instrument de légitimation politique. Il permet au régime de renforcer l'autoritarisme, de neutraliser les contestations internes et de restructurer l'économie autour d'un modèle de guerre permanente. Poutine n'agit pas comme un dirigeant fou. Rien dans son parcours, sa trajectoire politique, ni dans son mode de gouvernance ne correspond à une logique de déséquilibre mental ou d'irrationalité. Sa conduite du pouvoir est cohérente, froide, stratégique et méthodique. Ce qui peut paraître irrationnel vu de l'extérieur obéit en réalité à une vision du monde structurée. Il croit profondément à sa lecture de l'histoire, à la centralité de la Russie, à la fin de l'hégémonie occidentale et à la légitimité d'un monde fondé sur le rapport de force. Sa priorité n'est pas l'héroïsme ou la conquête personnelle, mais la stabilité et la puissance durable de son système. Il dirige un régime autoritaire structuré, fondé sur le contrôle politique, la loyauté des élites et l'orthodoxie idéologique. Sa stratégie est rationnelle dans ses objectifs, mais profondément déstabilisatrice pour l'ordre international. Cette stratégie se paye toutefois par un coût humain énorme. Des milliers de jeunes Russes, parfois très jeunes, sont envoyés au front, souvent avec peu de formation, parfois sous la pression de la conscription partielle ou de la mobilisation indirecte. Les pertes sont importantes, avec des dizaines de milliers de morts ou blessés depuis le début du conflit. Ces sacrifices humains sont considérés par le Kremlin comme un coût nécessaire pour maintenir la capacité de combat, tenir les positions sur le terrain et affirmer la crédibilité militaire de la Russie. Le régime contrôle l'information, minimise l'impact sur l'opinion publique intérieure et mobilise la propagande pour légitimer ses pertes, invoquant la défense de la patrie, la protection des frontières et la survie de l'État. Ces jeunes sont donc envoyés à la mort comme partie intégrante d'une stratégie globale d'usure et de maintien de la guerre sur le long terme dans le calcul froid de Poutine. Mais cette stratégie ne serait pas viable sans appui extérieur. La Russie, confrontée aux sanctions occidentales, s'est tournée vers des partenaires non occidentaux pour maintenir son effort de guerre. La Chine est devenue un pilier central de ce système. Officiellement neutre, Pékin soutient Moscou par des échanges économiques massifs, des exportations de composants industriels, de technologies, de produits à double usage civil et militaire, et par l'intégration de la Russie dans des circuits économiques alternatifs aux systèmes occidentaux. Cela permet au Kremlin de maintenir sa production militaire, de contourner partiellement les sanctions et de soutenir son industrie de défense. Ce partenariat sino-russe s'inscrit dans une stratégie plus large de construction d'un monde multipolaire visant à affaiblir l'ordre international dominé par l'Occident. Il ne s'agit pas d'une alliance militaire formelle, mais d'un alignement stratégique fondé sur des intérêts communs, contestation de l'hégémonie occidentale, redéfinition des règles du jeu mondial et soutien mutuel sur les grands dossiers géopolitiques. La coopération avec la Corée du Nord est encore plus directe. En juin 2024, un traité de partenariat stratégique global a été signé entre Moscou et Pyongyang, incluant une clause d'assistance mutuelle. Depuis, la Corée du Nord est devenue un fournisseur majeur de munitions et d'armements pour la Russie, obus d'artillerie, missiles, roquettes, armes lourdes. Une partie significative de l'arsenal utilisé par l'armée russe en Ukraine provient de Pyongyang. Mais cette coopération va au-delà du matériel. Des milliers de soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie, certains déployés dans des zones proches du front ukrainien, participant à des missions logistiques, techniques et parfois opérationnelles. Des pertes humaines importantes ont été rapportées parmi ces troupes. La Corée du Nord assume ainsi un rôle militaire actif dans un conflit européen, ce qui constitue une rupture historique majeure. Au final, la stratégie de Vladimir Poutine est globale, cohérente et structurée. Figer des conquêtes territoriales, user l'ennemi dans le temps long, fracturer les soutiens occidentaux, verrouiller le pouvoir à l'intérieur, bâtir des alliances alternatives hors du monde occidental et inscrire la Russie dans un affrontement systématique de longue durée contre l'ordre international actuel. La guerre en Ukraine devient ainsi moins un objectif en soi qu'un instrument central d'une transformation géopolitique plus large. Elle n'est plus seulement un conflit régional, mais le symptôme d'un basculement historique où la logique de puissance, de force et de rapport de force redevient le principe structurant des relations internationales. Aujourd'hui, Vladimir Poutine reste au pouvoir non pas par légitimité démocratique, mais par la combinaison d'un contrôle strict de l'État, la manipulation des élections et la répression des opposants. Il consolide son autorité à l'intérieur du pays en utilisant la guerre comme outil de propagande et de mobilisation, en envoyant sur le front des milliers de jeunes Russes, souvent à peine adultes, dont beaucoup ne reviendront jamais. Ces enfants sacrifiés servent un calcul politique froid, maintenir la pression sur l'Ukraine, affirmer la puissance de la Russie, et légitimer un régime autoritaire qui confond la survie du pouvoir avec celle de l'État. La guerre, la propagande, la peur et la manipulation électorale sont ainsi les piliers de son maintien au Kremlin, au prix d'un nombre effroyable de vies humaines et de la liberté de son peuple.
I go hard like Vladimir Putin, go hard like Vladimir Putin, I go hard like Vladimir Putin, go hard like Vladimir Putin, I go hard like Vladimir Putin, go hard like Vladimir Putin, I go hard like Vladimir Putin, go hard like Vladimir Putin, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Vladimir Putin,
niggas don't know what to put in. Instead, they be out there hating that them boy them now them a ranting. Cause I go hard like Vladimir Putin. I'm talking that talk and I'm walking that walk. Nigga got green like Incredible Hulk. You're talking that talk but not walking that walk. Like a Muslim, aren't you eating that pork? Looking at my other mirror. Now it's time to turn up here. Put in work like Vladimir. Yeah, I'm the hottest here.
I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. I go hard like Vladimir Putin. Putin, go hard like Vladimir Putin, I go hard like Vladimir Putin, go hard like Vladimir Putin, I go hard like Vladimir Putin, go hard like Vladimir Putin, Vladimir
Putin.
Vladimir.
Vladimir Putin.
Putin.
Vladimir Putin.
Vladimir.
Vladimir Putin.
Putin.
Okay then, let a maniac speak then. These motherfuckers pop pets like C-Sam. I see him. I see Sam. I don't wanna take him to one ton of Mo Bay. Toss a bitch, nigga, shoulda stayed in your fucking lane. Get money, I'm bossed up. Leave the club, I turn up. Nigga talk shit, get fucked up. Guns in your face, you messed up. I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. Vladimir Putin.
Vladimir
Putin.
Putin.
Vladimir Putin.
Vladimir
Putin.
Putin.
Vladimir Putin.
Vladimir
Putin.
Putin.
Vladimir Putin.
Vladimir
Putin.
Putin.
Chronique historique, hétéroclite et tout azimique.